Le célèbre banquier prenait du thé, grignotait quelques tartines de beurre, un homme dont les dents n'étaient plus aiguisées par l'appétit depuis longtemps, quand il entendit une voiture arrêtant à la petite porte de son jardin. Bientôt, le secrétaire de Nucingen lui présenta Cottençon, qu'il n'avait pu trouver que dans un café près de Sainte-Pélagie, où l'agent déjeunait du pourboire donné par un débiteur, incarcéré avec certains égards qui se paient. Cottençon, voyez-vous, était tout un poème parisien. À son aspect, vous eussiez deviné de prime abord que le Figaro de Beaumarchais, le Mascarille de Molière, les Frontins de Marivaux et les Lafleur de Dancourt, ces grandes expressions de l'audace dans la friponnerie, de la ruse aux abois, du stratagème renaissant de ses ficelles coupées, sont quelque chose de médiocre en comparaison de ce colosse d'esprit et de misère. Quand à Paris, vous rencontrez un type, ce n'est plus un homme, c'est un spectacle. Ce n'est plus un moment de la vie, mais une existence, plusieurs existences. Cuisez trois fois dans un four un buste de plâtre, vous obtenez une espèce d'apparence bâtarde de bronze florentin. Eh bien, les éclairs de malheurs innombrables, les nécessités de position terribles, avaient bronzé la tête de Cottençon, comme si la sueur d'un four eût par trois fois déteint sur son visage. Les rides très pressées ne pouvaient plus se déplisser. Elles formaient des plis éternels, blancs au fond. Cette figure jaune était tout ride. Le crâne, semblable à celui de Voltaire, avait l'insensibilité d'une tête de mort. Et sans quelques cheveux à l'arrière, on eût douté qu'il fût celui d'un homme vivant. Sous un front immobile, s'agitaient sans rien exprimer des yeux de chinois exposés sous verre à la porte d'un magasin de thé, des yeux factices qui jouent la vie et dont l'expression ne change jamais. Le nez, camus comme celui de la mort, narguait le destin, et la bouche, serrée comme celle d'un avare, était toujours ouverte et néanmoins discrète, comme le rictus d'une boîte à lettres. Calme comme un sauvage, les mains hâlées, Cottençon, petit homme sec et maigre, avait cette attitude diogénique pleine d'insouciance, qui ne peut jamais se plier aux formes du respect. Et quel commentaire de sa vie et de ses mœurs n'était pas écrit dans son costume, pour ceux qui savent déchiffrer un costume. Quel pantalon surtout, un pantalon de record, noir et luisant, comme l'étoffe dite voile avec laquelle on fait les robes d'avocat. Un gilet acheté au temple, mais à châle et brodé. Un habit d'un noir rouge. Et tout cela brossé, quasi propre, orné d'une montre, attachée par une chaîne en chrysocale. Cottençon laissait voir une chemise en percale jaune, plissée, sur laquelle brillait un faux diamant en épingle. Le col de velours ressemblait à un carcan, sur lequel débordaient les plis rouges d'une chair de Caraïbe. Le chapeau de soie était luisant comme du satin, mais la coiffe fut rendue de quoi faire deux lampions si quelque épicier l'eût acheté pour le faire bouillir. Ce n'est rien que d'énumérer ces accessoires. Il faudrait pouvoir peindre l'excessive prétention que Cottençon savait leur imprimer. Il y avait je ne sais quoi de coquet dans le col de l'habit, dans le cirage tout frais des bottes à semelles entrebâillées, qu'aucune expression française ne peut rendre. Enfin, pour faire entrevoir ce mélange de tons si divers, un homme d'esprit aurait compris, à l'aspect de Cottençon, que si au lieu d'être mouchard, il eût été voleur, toutes ces guenilles, au lieu d'attirer le sourire sur les lèvres, eussent fait frissonner d'horreur. Sur le costume, un observateur se fût dit « Voilà un homme infâme, il boit, il joue, il a des vices, mais il ne se saoule pas. Mais il ne triche pas. Ce n'est ni un voleur, ni un assassin. » Et Cottençon était vraiment indéfinissable, jusqu'à ce que le mot « espion » fût venu dans la pensée. Cet homme avait fait autant de métiers inconnus qu'il y en a de connus. Le fin sourire de ses lèvres pâles, le clignement de ses yeux verdâtres, la petite grimace de son nez camus, disait qu'il ne manquait pas d'esprit. Il avait un visage de fer blanc, et l'âme devait être comme le visage. Aussi, ses mouvements de physionomie étaient-ils des grimaces, arrachées par la politesse, plutôt que l'expression de ses mouvements intérieurs. Il eût effrayé s'il n'eût pas fait en rire. Contenson, un des plus curieux produits de l'écume, qui surnage au bouillonnement de la cuve parisienne, où tout est en fermentation, se piquait surtout d'être philosophe. Il disait sans amertume, « J'ai de grands talents, mais on les a pour rien, c'est comme si j'étais un crétin. » Et il se condamnait, au lieu d'accuser les hommes. « Trouvez-vous beaucoup d'espions, qui n'aient pas plus de fiels que n'en avait Contenson ? Les circonstances sont contre nous, » répétait-il à ses chefs. « Nous pouvions être du cristal, nous restons grains de sable, voilà tout. » Son cynisme en fait de costume avait un sens. Il ne tenait pas plus à son habillement de ville que les acteurs ne tiennent au leur. Il excellait à se déguiser, à se grimer. Il eût donné des leçons à Frédéric Lemaître, car il pouvait se faire dandy quand il le fallait. Il avait dû jadis, dans sa jeunesse, appartenir à la société des braillés des gens à petite maison. Il manifestait une profonde antipathie pour la police judiciaire, car il avait appartenu sous l'Empire à la police de Fouché, qu'il regardait comme un grand homme. Depuis la suppression du ministère de la police, il avait pris pour pis-aller la partie des arrestations commerciales. Mais ses capacités connues, sa finesse, en faisaient un instrument précieux, et les chefs inconnus de la police politique avaient maintenu son nom sur leur liste. Contenson, de même que ses camarades, n'étaient qu'un des comparses du drame dont les premiers rôles appartenaient à leur chef quand il s'agissait d'un travail politique. « Allez, fissant !» dit Nucingen en renvoyant son secrétaire par un geste. « Pourquoi cet homme est-il dans un hôtel et moi dans un garni ?» se disait Contenson. « Il a trois fois roué ses créanciers. Il a volé. Moi, je n'ai jamais pris un denier. » « J'ai plus de talent qu'il n'en a. »« Contenson, mon petit, » dit le baron, « fusse m'avait carotté sa billet de 1000 francs. »« Ma maîtresse devait à Dieu et au diable. »« Tu as ça une maîtresse ?» s'écria Nucingen, en regardant Contenson avec une admiration mêlée d'envie. « Je n'ai que 66 ans, » répondit Contenson, un homme que le vice avait maintenu jeune, comme un fatal exemple. « Et que fait-elle »« Elle m'aide, » dit Contenson. « Quand on est voleur et qu'on est aimé par une honnête femme, ou elle devient voleuse, ou l'on devient honnête homme. Moi, je suis resté mouchard. »« Tu as besoin d'argent, toujours ?» demanda Nucingen. « Toujours, » répondit Contenson en souriant. « C'est mon état d'en désirer comme le vôtre et d'en gagner. Nous pouvons nous entendre. » « Ramassez-moi, je me charge de le dépenser. Vous serez le puits et moi le seau. Veux-tu gagner un billet de 500 francs ?»« Belle question. Mais suis-je bête ? Vous ne me l'offrez pas pour réparer l'injustice de la fortune à mon égard. »« Dis tout. Je l'ai choint au billet de 1000 que tu m'as chipé. Ça fait 1500 francs que je te donne. »« Bien. Vous me donnez les 1000 francs que j'ai pris ?» et vous ajoutez 500 francs. C'est bien ça, fit Nucingen en hochant la tête. Ça ne fait toujours que 500 francs, dit imperturbablement Contenson. Attonner, répondit le baron. Apprendre. Eh bien, contre quelle valeur monsieur le baron échange-t-il cela? On m'a dit qu'il y avait à Paris un homme capable de découvrir la femme que j'aime, et que tu sais son adresse. Enfin, un maître en espionnage. C'est vrai. Eh bien, donne-moi la tresse, et tu as les 500 francs. Voir, répondit vivement Contenson. Les voici, reprit le baron, en tirant un billet de sa poche. Eh bien, donnez, dit Contenson en tendant la main. Tonnant, tonnant, allons voir l'homme, et tiens l'argent. « Car tu pourrais me fendre beaucoup d'adresse à ce prix-là. » Contenson se mit à rire. « Au fait, Vous avez le droit de penser cela de moi, dit-il en ayant l'air de se gourmander. Plus notre état est canaille, plus il faut de probité. Mais voyez-vous, monsieur le baron, mettez 600 francs, et je vous donnerai un bon conseil. Tonne, et fie-toi à ma générosité. Je me risque, dit Contenson, mais je joue gros jeu. En police, voyez-vous, il faut aller sous terre. Vous dites, allons, marchons. Vous êtes riche, vous croyez que tout cède à l'argent. L'argent est bien quelque chose, mais avec de l'argent, selon les 2 ou 3 hommes forts de notre parti, on n'a que des hommes, et il existe des choses auxquelles on ne pense point, qui ne peuvent pas s'acheter. On ne soudoie pas le hasard. Aussi, en bonne police, ça ne se fait-il pas ainsi? Voulez-vous vous montrer avec moi en voiture? On sera rencontrés. On a le hasard tout aussi bien pour soi que contre soi. Frais? Dit le baron. Dame, oui, monsieur. C'est un fer à cheval ramassé dans la rue qui a mené le préfet de police à la découverte de la machine infernale. Eh bien, quand nous irions ce soir, à la nuit, en fiacre chez monsieur de Saint-Germain, il ne se soucierait pas plus de vous voir entrant chez lui que vous d'être vu en y allant. C'est schiste, dit le baron. Ah, c'est le fort des forts, le second du fameux Corentin, le bras droit de Fouché, que d'aucuns disent son fils naturel. Il l'aurait eu étant prêtre, mais c'est des bêtises. Fouché savait être prêtre, comme il a su être ministre. Eh bien, vous ne ferez pas travailler cet homme-là, voyez-vous, à moins de 10 billets de 1000 francs. Pensez-y. Mais votre affaire sera faite, et bien faite. Ni vue, ni connue, comme on dit. Je devrais prévenir monsieur de Saint-Germain, et il vous assignera quelques rendez-vous, dans un endroit où personne ne pourra rien voir, ni rien entendre, car il court des dangers à faire de la police pour le compte des particuliers. Mais que voulez-vous? C'est un brave homme, le roi des hommes, et un homme qui a essuyé de grandes persécutions, et pour avoir sauvé la France encore, comme moi, comme tous ceux qui l'ont sauvé. Eh bien, tu m'écriras à l'heure du perché, dit le baron, en souriant de cette vulgaire plaisanterie. Monsieur le baron ne me graisse pas la patte, dit Contenson, avec un air à la fois humble et menaçant. Chant, dit le baron à son jardinier. Va demander 20 francs à Georges et apporte-les-moi. Si monsieur le baron n'a pas d'autre renseignement que ce qu'il m'a donné, je doute cependant que le maître puisse lui être utile. J'en ai d'autres, répondit le baron d'un air fin. J'ai l'honneur de saluer monsieur le baron, dit Contenson, en prenant la pièce de 20 francs. J'aurai l'honneur de venir dire à Georges où monsieur devra se trouver ce soir, car il ne faut jamais rien écrire en bonne police. C'est drôle, comme ces caillards ont l'esprit, se dit le baron. C'est en police, tout comme dans les affaires. En quittant le baron, Contenson alla tranquillement de la rue Saint-Lazare à la rue Saint-Honoré, jusqu'au café David. Il y regarda par les carreaux et aperçut un vieillard connu là sous le nom du père Canquoël. Le café David, situé rue de la Monnaie au coin de la rue Saint-Honoré, a joui pendant les 30 premières années de ce siècle d'une sorte de célébrité, circonscrite d'ailleurs au quartier dit des Bourdonnais. Là se réunissaient les vieux négociants retirés ou les gros commerçants encore en exercice, les Camusot, les Lebas, les Pirot, les Popinot, quelques propriétaires comme le petit père Molineux. On y voyait de temps en temps le vieux père Guillaume, qui venait de la rue du Colombier. On y parlait politique entre soi, mais prudemment, car l'opinion du café David était le libéralisme. On s'y racontait les cancans du quartier, tant les hommes éprouvent le besoin de se moquer les uns des autres. Ce café, comme tous les cafés d'ailleurs, avait son personnage original dans ce père Canquoël, qui venait depuis l'année 1811 et qui paraissait être si parfaitement en harmonie avec les gens probes réunis là que personne ne se gênait pour parler politique en sa présence. Quelquefois, ce bonhomme, dont la simplicité fournissait beaucoup de plaisanteries aux habitués, avait disparu pour 1 ou 2 mois. Mais ses absences, toujours attribuée à ses infirmités ou à sa vieillesse, car il parut dès 1811 avoir passé l'âge de 60 ans, n'étonnait jamais personne. « Qu'est donc devenu le père Canquoël ? » disait-on à la dame du comptoir. « J'ai dans l'idée, répondait-elle, qu'un beau jour, nous apprendrons sa mort par les petites affiches. » Le père Canquoël donnait dans sa prononciation un perpétuel certificat de son origine. Il disait une estatue est spéciale, le peuple est tur pour turc. Son nom était celui d'un petit bien appelé les Canquoël, mot qui signifie Anton dans quelques provinces, et situé dans le département de Vaucluse, d'où il était venu. On avait fini par dire Canquoël au lieu de dire des Canquoël, sans que le bonhomme s'en fâchât. La noblesse lui semblait morte en 1793. D'ailleurs, le fief des Canquoël ne lui appartenait pas. Il était cadet d'une branche cadette. Aujourd'hui, la mise du père Canquoël semblerait étrange. Mais de 1811 à 1820, elle n'étonnait personne. Ce vieillard portait des souliers à boucles en acier à facettes, des bas de soie à raies circulaires, alternativement blanches et bleues, une culotte en peau de soie à boucles ovales, pareilles à celles des souliers quant à la façon, un gilet blanc à broderie, un vieil habit de drap verdâtre, marron à boutons de métal, et une chemise à jabot plissé dormant complétaient ce costume. À moitié du jabot brillait un médaillon en or où se voyait sous verre un petit temple en cheveux, une de ces adorables petitesses de sentiment qui rassurent les hommes, tout comme un épouvantail effraie les moineaux. La plupart des hommes, comme les animaux, s'effraient et se rassurent avec des riens. La culotte du père Canquoël se soutenait par une boucle qui, selon la mode du dernier siècle, la serrait au-dessus de l'abdomen. De la ceinture pendaient parallèlement deux chaînes d'acier, composées de plusieurs chaînettes, et terminées par un paquet de breloques. Sa cravate blanche était tenue par derrière au moyen d'une petite boucle en or. Enfin, sa tête neigeuse et poudrée se parait encore, en 1816, du tricorne municipal que portait aussi M. Tri, président du tribunal. Ce chapeau, si cher au vieillard, le père Canquoël l'avait remplacé depuis peu. Le bonhomme crut devoir ce sacrifice à son temps, par cet ignoble chapeau rond contre lequel personne n'ose réagir. Une petite queue, serrée dans un ruban, décrivait dans le dos de l'habit une trace circulaire, où la crasse disparaissait sous une fine tombée de poudre. En vous arrêtant aux traits distinctifs du visage, un nez plein de gibbosité, rouge et digne de figurer dans un plat de truffes, vous eussiez supposé un caractère facile, niais et débonnaire, à cet honnête vieillard essentiellement gobe-mouche, et vous en eussiez été la dupe, comme tout le café David, où jamais personne n'avait examiné le front observateur, la bouche sardonique et les yeux froids de ce vieillard dodeliné par les vices, calme comme un Vitellius, dont le ventre impérial reparaissait, pour ainsi dire, palingénésiquement. En 1816, un jeune commis voyageur nommé Gaudissart, habitué du café David, se grisa de 11 heures à minuit avec un officier à demi-solde. Il eut l'imprudence de parler d'une conspiration ourdie contre les Bourbons, assez sérieuse et près d'éclater. On ne voyait plus dans le café que le père Canquoël, qui semblait endormi, deux garçons qui sommeillaient et la dame du comptoir. Dans les 24 heures, Gaudissart fut arrêté. La conspiration était découverte. Deux hommes périrent sur l'échafaud. Ni Gaudissart, ni personne ne soupçonna jamais le brave père Canquoël d'avoir éventé la mèche. On renvoya les garçons, on s'observa pendant un an, et l'on s'effraya de la police. De concert avec le père Canquoël, qui parlait de déserter le café David, tant il avait horreur de la police. Contenson entra dans le café, demanda un petit verre d'eau-de-vie, ne regarda pas le père Canquoël, occupé à lire les journaux. Seulement, quand il eut lampé son verre d'eau-de-vie, il prit la pièce d'or du baron et appela le garçon en frappant trois coups secs sur la table. La dame du comptoir et le garçon examinèrent la pièce d'or avec un soin très injurieux pour Contenson. Mais leur défiance était autorisée par l'étonnement que causait à tous les habitués l'aspect de Contenson. Cet or est-il le produit d'un vol ou d'un assassinat? Telle était la pensée de quelques esprits forts et clairvoyants qui regardaient Contenson par-dessous leurs lunettes, tout en ayant l'air de lire leur journal. Contenson, qui voyait tout et ne s'étonnait jamais de rien, s'essuya dédaigneusement les lèvres avec un foulard où il n'y avait que 3 reprises, reçut le reste de sa monnaie, empocha tous les gros sous dans son gousset, dont la doublure, jadis blanche, était aussi noire que le drap du pantalon, et n'en laissa pas un seul au garçon. « Quel gibier de potence !» dit le père Canquoël à Monsieur Piron, son voisin. « Bah !» répondit à tout le café Monsieur Camusot, qui seul n'avait pas montré le moindre étonnement. « C'est Contenson, le bras droit de Louchard, notre garde du commerce. Les drôles ont peut-être quelqu'un à pincer dans le quartier. » Un quart d'heure après, le bonhomme Canquoël se leva, prit son parapluie et s'en alla tranquillement. N'est-il pas nécessaire d'expliquer quel homme terrible et profond se cachait sous l'habit du père Canquoël, de même que l'abbé Carlos recelait Vautrin? Ce méridional né à Canquoël, le seul domaine de sa famille, assez honorable d'ailleurs, avait nom Peyrade. Il appartenait en effet à la branche cadette de la maison de la Peyrade, une vieille mais pauvre famille du comtat, qui possède encore la petite terre de la Peyrade. Il était venu, lui, 7e enfant, à pied à Paris, avec 2 écus de 6 livres dans sa poche, en 1772, à l'âge de 17 ans, poussé par les vices d'un tempérament fougueux, par la brutale envie de parvenir, qui attire tant de méridionaux dans la capitale, quand ils ont compris que la maison paternelle ne pourra jamais fournir les rentes de leur passion. On comprendra toute la jeunesse de Peyrade en disant qu'en 1782, il était le confident, le héros de la lieutenance générale de la police, où il fut très estimé par messieurs Lenoir et d'Albert, les 2 derniers lieutenants généraux. La révolution n'eut pas de police, elle n'en avait pas besoin. L'espionnage, alors assez général, s'appela civisme. Le directoire, gouvernement un peu plus régulier que celui du comité de salut public, fut obligé de reconstituer une police, et le premier consul en acheva la création par la préfecture de police et par le ministère de la police générale. Peyrade, l'homme des traditions, créa le personnel, de concert avec un homme appelé Corentin, beaucoup plus fort que Peyrade d'ailleurs, quoique plus jeune, et qui ne fut un homme de génie que dans les souterrains de la police. En 1808, les immenses services que rendit Peyrade furent récompensés par sa nomination au poste éminent de commissaire général de police à Anvers. Dans la pensée de Napoléon, cette espèce de préfecture de police équivalait à un ministère de la police chargé de surveiller la Hollande. Au retour de la campagne de 1809, Peyrade fut enlevé d'Anvers par un ordre du cabinet de l'empereur, amené en poste à Paris entre 2 gendarmes et jeté à la force. 2 mois après, il sortit de prison, cautionné par son ami Corentin, après avoir toutefois subi, chez le préfet de police, 3 interrogatoires de chacun 6 heures. Peyrade devait-il sa disgrâce à l'activité miraculeuse avec laquelle il avait secondé Fouché dans la défense des côtes de la France, attaqué par ce qu'on a dans le temps nommé l'expédition de Walcheren, et dans laquelle le duc d'Otrante déploya des capacités dont s'effraya l'empereur. Ce fut probable dans le temps pour Fouché, mais aujourd'hui, que tout le monde sait ce qui se passa dans ce temps au conseil des ministres convoqué par Cambacérès, c'est une certitude. Tous, foudroyés par la nouvelle de la tentative de l'Angleterre qui rendait à Napoléon l'expédition de Boulogne, et surpris sans le maître, alors retranché dans l'île de Lobo, où l'Europe le croyait perdu, les ministres ne savaient quel parti prendre. L'opinion générale fut d'expédier un courrier à l'empereur, mais Fouché seul osa tracer le plan de campagne qu'il mit d'ailleurs à exécution. Agissez comme vous voudrez, lui dit Cambacérès. Mais moi qui tiens à ma tête, j'expédie un rapport à l'empereur. On sait quel absurde prétexte prit l'empereur à son retour, en plein conseil d'État, pour disgracier son ministre et le punir d'avoir sauvé la France sans lui. Depuis ce jour, l'empereur doubla l'inimitié du prince de Talleyrand de celle du duc d'Otrante, les deux seuls grands politiques dus à la Révolution, et qui peut-être eussent sauvé Napoléon en 1813. On prit, pour mettre Peyrade à l'écart, le vulgaire prétexte de concussion. Il avait favorisé la contrebande en partageant quelques profits avec le haut commerce. Ce traitement était rude pour un homme qui devait le bâton de maréchal du commissariat général à de grands services rendus. Cet homme, vieilli dans la pratique des affaires, possédait les secrets de tous les gouvernements depuis l'an 1775, époque de son entrée à la lieutenance générale de police. L'empereur, qui se croyait assez fort pour créer des hommes à son usage, ne tint aucun compte des représentations qui lui furent faites plus tard, en faveur d'un homme considéré comme un des plus sûrs, des plus habiles et des plus fins de ces génies inconnus, chargés de veiller à la sûreté des États. Il crut pouvoir remplacer Peyrade par Contenson, mais Contenson était alors absorbé par Corentin à son profit. Peyrade fut d'autant plus cruellement atteint que, libertin et gourmand, il se trouvait relativement aux femmes dans la situation d'un pâtissier qui aimerait les friandises. Ses habitudes vicieuses étaient devenues chez lui la nature même. Il ne pouvait plus se passer de bien dîner, de jouer, de mener enfin cette vie de grand seigneur, sans faste, à laquelle s'adonnent tous les gens de facultés puissantes et qui se sont fait un besoin de distraction exorbitante. Puis, il avait jusqu'alors grandement vécu, sans jamais être tenu à représentation, mangeant à même, car on ne comptait jamais ni avec lui ni avec Corentin, son ami. Cyniquement spirituel, il aimait d'ailleurs son état. Il était philosophe. Enfin, un espion, à quelque étage qu'il soit dans la machine de la police, ne peut pas plus qu'un forçat revenir à une profession dite honnête ou libérale. Une fois marqué, une fois immatriculé, les espions et les condamnés ont pris, comme les diacres, un caractère indélébile. Il est des êtres auxquels l'état social imprime des destinations fatales. Pour son malheur, Peyrade s'était amouraché d'une jolie petite fille, une enfant qu'il avait la certitude d'avoir eue lui-même d'une actrice célèbre, à laquelle il rendit un service et qui en fut reconnaissante pendant 3 mois. Peyrade, qui fit revenir son enfant d'Anvers, se vit donc sans ressources dans Paris, avec un secours annuel de 1200 francs accordé par la préfecture de police au vieil élève de Lenoir. Il se logea rue des Moineaux, au 4e, dans un petit appartement de 5 pièces, pour 250 francs. Si jamais l'homme doit sentir l'utilité, les douceurs de l'amitié, n'est-ce pas le lépreux moral, appelé par la foule un espion, par le peuple un mouchard, par l'administration un agent? Peyrade et Corentin étaient donc amis comme Oreste et Pylade. Peyrade avait formé Corentin comme Vien forma David. Mais l'élève surpassa promptement le maître. Ils avaient commis ensemble plus d'une expédition. Peyrade, heureux d'avoir deviné le mérite de Corentin, l'avait lancé dans la carrière en lui préparant un triomphe. Il força son élève à se servir d'une maîtresse qui le dédaignait, comme d'un hameçon à prendre un homme. Et Corentin avait à peine alors 25 ans. Corentin restait l'un des généraux dont le ministre de la police et le connétable avaient gardé, sous le duc de Rovigo, la place éminente qu'il occupait sous le duc d'Otrante. Or, il en était alors de la police générale comme de la police judiciaire. À chaque affaire un peu vaste, on passait des forfaits, pour ainsi dire, avec les 3, 4 ou 5 agents capables. Le ministre, instruit de quelque complot, averti de quelque machination, n'importe comment, disait à l'un des colonels de sa police: Que vous faut-il pour arriver à un tel résultat ? Corentin, Contenson, répondait après un mûr examen. 20, 30, 40 000 francs. Puis une fois l'ordre donné d'aller en avant, tous les moyens et les hommes à employer étaient laissés au choix et au jugement de Corentin ou de l'agent désigné. La police judiciaire agissait d'ailleurs ainsi pour la découverte des crimes avec le fameux Vidocq. La police politique, de même que la police judiciaire, prenait ses hommes principalement parmi les agents connus, immatriculés, habituels, et qui sont comme les soldats de cette force secrète, si nécessaire au gouvernement. Malgré les déclamations des philanthropes ou des moralistes à petite morale, mais l'excessive confiance due aux deux ou trois généraux de la trempe de Peyrade et de Corentin impliquait chez eux le droit d'employer des personnes inconnues, toujours néanmoins à charge de rendre compte au ministre dans les cas graves. Or l'expérience, la finesse de Peyrade était trop précieuse à Corentin, qui la bourrasque de 1810 passé employa son vieil ami, le consulta toujours et subvint largement à ses besoins. Corentin trouva moyen de donner environ 1 000 francs par mois à Peyrade. De son côté, Peyrade rendit d'immenses services à Corentin. En 1816, Corentin, à propos de la découverte de la conspiration où devait tremper le bonapartiste Gaudissart, essaya de faire réintégrer Peyrade à la police générale du royaume. Mais une influence inconnue écarta Peyrade. Voici pourquoi. Dans leur désir de se rendre nécessaire, Peyrade, Corentin et Contenson, à l'instigation du duc d'Otrante, avaient organisé pour le compte de Louis XVIII une contre-police dans laquelle les agents de première force furent employés. Louis XVIII mourut, instruit de secrets qui resteront des secrets pour les historiens les mieux informés. La lutte de la police générale du royaume et de la contre-police du roi engendra d'horribles affaires dont le secret a été gardé par quelques échafauds. Ce n'est ici ni le lieu ni l'occasion d'entrer dans des détails à ce sujet, car les scènes de la vie parisienne ne sont pas les scènes de la vie politique. Il suffit de faire apercevoir quels étaient les moyens d'existence de celui qu'on appelait le bonhomme Canquoël au Café David. Par quel fil il se rattachait au pouvoir mystérieux et terrible de la police. De 1817 à 1822, Corentin, Contenson, Peyrade et leurs agents eurent pour mission d'espionner souvent le ministre lui-même. Ceci peut expliquer pourquoi le ministère refusa d'employer Peyrade et Contenson, sur qui Corentin, à leur insu, fit tomber les soupçons des ministres, afin d'utiliser son ami quand sa réintégration lui parut impossible. Les ministres eurent alors confiance en Corentin. Ils le chargèrent de surveiller Peyrade, ce qui fit sourire Louis XVIII. Corentin et Peyrade restaient alors entièrement les maîtres du terrain. Contenson, pendant longtemps attaché à Peyrade, le servait encore. Il s'était mis au service de garde du commerce par les ordres de Corentin et de Peyrade. En effet, par suite de cette espèce de fureur qu'inspire une profession exercée avec amour, ces deux généraux aimaient à placer leurs plus habiles soldats dans tous les endroits où les renseignements pouvaient abonder. D'ailleurs, les vices de Contenson, ses habitudes dépravées, qu'il avait fait tomber plus bas que ses deux amis, exigeait tant d'argent qu'il lui fallait beaucoup de besogne. Contenson, sans commettre aucune indiscrétion, avait dit à Louchard qu'il connaissait le seul homme capable de satisfaire le baron de Nucingen. Peyrade était en effet le seul agent qui pouvait faire impunément de la police pour le compte d'un particulier. Louis XVIII mort, Peyrade perdit non seulement toute son importance, mais encore les bénéfices de sa position d'espion ordinaire de Sa Majesté. En se croyant indispensable, il avait continué son train de vie. Les femmes, la bonne chère et le cercle des étrangers avaient préservé de toute économie un homme qui jouissait, comme tous les gens taillés pour les vices, d'une constitution de fer. Mais de 1826 à 1829, près d'atteindre à 74 ans, Il en rayait, selon son expression. D'année en année, Peyrade avait vu son bien-être diminuant. Il assistait aux funérailles de la police. Il voyait avec chagrin le gouvernement de Charles X en abandonnant les bonnes traditions. De session en session, la Chambre rognait les allocations nécessaires à l'existence de la police, en haine de ce moyen de gouvernement, et par parti pris de moraliser cette institution. « C'est comme si l'on voulait faire la cuisine en gants blancs », disait Peyrade à Corentin. Corentin et Peyrade apercevaient 1830 dès 1822. Ils connaissaient la haine intime que Louis XVIII portait à son successeur, ce qui explique son laisser-aller avec la branche cadette, et sans laquelle son règne et sa politique seraient une énigme sans mots. En vieillissant, son amour pour sa fille naturelle avait grandi chez Peyrade. Pour elle, il s'était mis sous sa forme bourgeoise, car il voulait marier sa Lydie à quelque honnête homme. Aussi, depuis 3 ans surtout, voulait-il se caser, soit à la préfecture de police, soit à la direction de la police générale du royaume, dans quelque place ostensible, avouable. Il avait fini par inventer une place dont la nécessité se ferait, disait-il à Corentin, sentir tôt ou tard. Il s'agissait de créer à la préfecture de police un bureau dit de renseignement, qui serait un intermédiaire entre la police de Paris proprement dite, la police judiciaire et la police du royaume, afin de faire profiter la direction générale de toutes ses forces disséminées. Peyrade seul pouvait, à son âge, après 55 ans de discrétion, être l'anneau qui rattacherait les 3 polices, afin d'être l'archiviste à qui la politique et la justice s'adresseraient pour s'éclairer en certains cas. Peyrade espérait ainsi rencontrer, Corentin aidant, une occasion d'attraper une dot et un mari pour sa petite Lydie. Corentin avait déjà parlé de cette affaire au directeur général de la police du royaume, sans parler de Peyrade, et le directeur général, un méridional, jugeait nécessaire de faire venir la proposition de la préfecture. Au moment où Contenson avait frappé 3 coups avec sa pièce d'or sur la table du café, signal qui voulait dire « j'ai à vous parler », le doyen des hommes de police était à penser à ce problème. Par quel personnage, par quel intérêt faire marcher le préfet de police actuel? Et il avait l'air d'un imbécile, étudiant son courrier français. « Notre pauvre Fouché, se disait-il en cheminant le long de la rue Saint-Honoré, ce grand homme est mort. Nos intermédiaires avec Louis XVIII sont en disgrâce. D'ailleurs, comme me le disait Corentin hier, on ne croit plus à l'agilité ni à l'intelligence d'un septuagénaire. Ah, pourquoi me suis-je habitué à dîner chez Véry, à boire des vins exquis, à chanter la mère Godichon, à jouer quand j'ai de l'argent? Pour s'assurer une position, il ne suffit pas d'avoir de l'esprit, comme dit Corentin. Il faut encore de l'esprit de conduite. Ce cher monsieur Lenoir m'a bien prédit mon sort quand il s'était crié à propos de l'affaire du collier « Vous ne serez jamais rien !» en apprenant que je n'étais pas resté sous le lit de la fille Oliva. Si le vénérable père Canquoël, on l'appelait le père Canquoël dans sa maison, était resté rue des Moineaux, au 4e étage, croyait qu'il avait trouvé dans la disposition du local des bizarreries qui favorisaient l'exercice de ses terribles fonctions. Si au coin de la rue Saint-Roch, sa maison se trouvait sans voisinage d'un côté. Comme elle était partagée en 2 portions au moyen de l'escalier, il existait à chaque étage 2 chambres complètement isolées. Ces 2 chambres étaient situées du côté de la rue Saint-Roch. Au-dessus du 4e étage s'étendaient des mansardes, dont l'une servait de cuisine, et dont l'autre était l'appartement de l'unique servante du père Canquoël, une Flamande nommée Kat, qui avait nourri Lydie. Le père Canquoël avait fait sa chambre à coucher de la première des 2 pièces séparées, et de la seconde son cabinet. Un gros mur mitoyen isolait ce cabinet par le fond. La croisée, qui voyait sur la rue des Moineaux, faisait face à un mur d'encoignure sans fenêtre. Or, comme toute la largeur de la chambre de Peyrade les séparait de l'escalier, les 2 amis ne craignaient aucun regard, aucune oreille, en causant d'affaires dans ce cabinet fait exprès pour leur affreux métier. Par précaution, Peyrade avait mis un lit de paille, une thibaude et un tapis très épais dans la chambre de la Flamande, sous prétexte de rendre heureuse la nourrice de son enfant. De plus, il avait condamné la cheminée en se servant d'un poêle dont le tuyau sortait par le mur extérieur sur la rue Saint-Roch. Enfin, il avait étendu sur le carreau plusieurs tapis, afin d'empêcher les locataires de l'étage inférieur de saisir aucun bruit. Expert en moyens d'espionnage, il sondait le mur mitoyen, le plafond et le plancher une fois par semaine, et les visitait comme un homme qui veut tuer des insectes importuns. La certitude d'être là, sans témoin ni auditeur, avait fait choisir ce cabinet à Corentin pour salle de délibération quand il ne délibérait pas chez lui. Le logement de Corentin n'était connu que du directeur général de la police du royaume et de Peyrade. Il y recevait les personnages que le ministère ou le château prenaient pour intermédiaires dans les circonstances graves. Mais aucun agent, aucun homme en sous-ordre n'y venait, et il combinait les choses du métier chez Peyrade. Dans cette chambre, sans aucune apparence, se tramèrent des plans, se prirent des résolutions qui fourniraient des tranches annales et des drames curieux, si les murs pouvaient parler. Là s'analysèrent, de 1816 à 1826, d'immenses intérêts. Là se découvrirent dans leurs germes les événements qui devaient peser sur la France. Là, Peyrade et Corentin, aussi prévoyants, mais plus instruits que Bellart, le procureur général, se disaient dès 1819 « Si Louis XVIII ne veut pas frapper tel ou tel coup, se défaire de tel prince, il exècre donc son frère, il veut donc lui léguer une révolution. » La porte de Peyrade était ornée d'une ardoise sur laquelle il trouvait parfois des marques bizarres, des chiffres écrits à la craie. Cette espèce d'algèbre infernale offrait aux initiés des significations très claires. En face de l'appartement si mesquin de Peyrade, celui de Lydie était composé d'une antichambre, d'un petit salon, d'une chambre à coucher et d'un cabinet de toilette. La porte de Lydie, comme celle de la chambre de Peyrade, était composée d'une tôle de 4 lignes d'épaisseur, placée entre 2 fortes planches en chêne, armée de serrures et d'un système de gonds qui les rendait aussi difficiles à forcer que des portes de prison. Aussi, quoique la maison fût une de ces maisons à aller, à boutique et sans portier, Lydie vivait-elle là sans avoir rien à craindre. La salle à manger, le petit salon, la chambre, dont toutes les croisées avaient des jardins aériens, étaient d'une propreté flamande et pleine de luxe. La nourrice flamande n'avait jamais quitté Lydie, qu'elle appelait sa fille. Toutes deux, elles allaient à l'église avec une régularité qui donnait du bonhomme Cancoël une excellente opinion à l'épicier royaliste établi dans la maison, au coin de la rue des Moineaux et de la rue Neuve-Saint-Roch, et dont la famille, la cuisine, les garçons occupaient le premier étage et l'entresol. Au second étage vivait le propriétaire, et le troisième était loué depuis 20 ans par un lapidaire. Chacun des locataires avait la clé de la porte bâtarde. L'épicière recevait d'autant plus complaisamment les lettres et les paquets adressés à ces 3 paisibles ménages que le magasin d'épicerie était pourvu d'une boîte aux lettres. Sans ces détails, les étrangers, et ceux à qui Paris est connu, n'auraient pu comprendre le mystère et la tranquillité, l'abandon et la sécurité qui faisaient de cette maison une exception parisienne. Dès minuit, le père Cancoël pouvait ourdir toutes les trames, recevoir des espions et des ministres, des femmes et des filles, sans que qui que ce soit au monde s'en aperçût. Peyrade, de qui la Flamande avait dit à la cuisinière de l'épicier qu'il ne ferait pas de mal à une mouche, passait pour le meilleur des hommes. Il n'épargnait rien pour sa fille Lydie, qui, après avoir eu Schmulk pour maître de musique, était musicienne à pouvoir composer. Elle savait laver une sépia, peindre à la gouache et à l'aquarelle. Peyrade dînait tous les dimanches avec sa fille. Ce jour-là, le bonhomme était exclusivement père. Religieuse sans être dévote, Lydie faisait ses Pâques et allait à confesse tous les mois. Néanmoins, elle se permettait de temps en temps une petite partie de spectacle. Elle se promenait aux Tuileries quand il faisait beau. Tels étaient tous ses plaisirs, car elle menait la vie la plus sédentaire. Lydie, qui adorait son père, en ignorait entièrement les sinistres capacités et les occupations ténébreuses. Aucun désir n'avait troublé la vie pure de cet enfant si pur. Svelte, belle comme sa mère, douée d'une voix délicieuse, d'un minois fin, encadrée par de beaux cheveux blonds, elle ressemblait à ces anges plus mystiques que réels, posés par quelques peintres primitifs au fond de leur sainte famille. Le regard de ses yeux bleus semblait verser un rayon du ciel sur celui qu'elle favorisait d'un coup d'œil. Sa mise chaste, sans exagération d'aucune mode, exhalait un charmant parfum de bourgeoisie. Figurez-vous un vieux Satan, père d'un ange, et se rafraîchissant à ce divin contact. Vous aurez une idée de Peyrade et de sa fille. Si quelqu'un eût sali ce diamant, le père aurait inventé pour l'engloutir un de ces formidables traquenards où se prirent sous la Restauration des malheureux qui portèrent leur tête sur l'échafaud. 1000 écus par an suffisaient à Lydie et à Kat, celle qu'elle appelait sa bonne. En entrant par le haut de la rue des Moineaux, Peyrade aperçut Contenson. Il le dépassa, monta le premier, entendit les pas de son agent dans l'escalier et l'introduisit avant que la Flamande n'eût mis le nez à la porte de sa cuisine. Une sonnette que faisait partir une porte à claire-voie, placée au 3e étage où demeurait le lapidaire, avertissait les locataires du 3e et du 4e quand il montait quelqu'un pour eux. Il est inutile de dire que dès minuit, Peyrade cotonnait le battant de cette sonnette. « Qu'y a-t-il donc de si pressé, philosophe ?» Philosophe était le surnom que Peyrade donnait à Contenson et que méritait cette épithète des mouchards. Ce nom de Contenson cachait, hélas, un des plus anciens noms de la féodalité normande. Mais il y a quelque chose comme 10 000 à prendre. Qu'est-ce ? De la politique ? Non, une niaiserie. Le baron de Nucingen, vous savez, ce vieux voleur patenté, hennit après une femme qu'il a vue au bois de Vincennes, et il faut la lui trouver ou il meurt d'amour. On a fait une consultation de médecin hier, à ce que m'a dit son valet de chambre. Je lui ai déjà soutiré 1 000 francs, sous prétexte de chercher l'infante. Et Contenson raconta la rencontre de Nucingen et d'Esther, en ajoutant que le baron avait quelques renseignements nouveaux. « Va, dit Peyrade, nous trouverons cette Dulcinée. Dis au baron de venir en voiture ce soir aux Champs-Élysées, avenue Gabriel, au coin de l'allée de Marigny. » Peyrade mit Contenson à la porte et frappa chez sa fille comme il fallait frapper pour être admis. Il entra joyeusement. Le hasard venait de lui jeter un moyen d'avoir enfin la place qu'il désirait. Il se plongea dans un bon fauteuil à la Voltaire, après avoir embrassé Lydie au front, et lui dit « Joue-moi quelque chose. » Lydie lui joua un morceau écrit pour le piano par Beethoven. « C'est bien joué cela, ma petite biche, » dit-il en prenant sa fille entre ses genoux. « Sais-tu que nous avons 21 ans ? Il faut se marier, car notre père a plus de 70 ans. « Je suis heureuse ici, » répondit-elle. « Tu n'aimes que moi. Moi si laid, si vieux, » demanda Peyrade. « Mais qui veux-tu donc que j'aime ? Je dîne avec toi, ma petite biche. Préviens-en Kat. Je songe à nous établir, à prendre une place et à te chercher un mari digne de toi. Quelque bon jeune homme, plein de talent, de qui tu puisses être fière un jour. Je n'en ai vu qu'un encore qui m'ait plu pour mari. Tu en as vu un ? Oui. Aux Tuileries, reprit Lydie. Il passait. Il donnait le bras à la comtesse de Sérisy. Il se nomme Lucien de Rubempré. J'étais assise sous un tilleul avec Kat, ne pensant à rien. Il y avait à côté de moi 2 dames qui se sont dit « Voilà Madame de Sérisy et le beau Lucien de Rubempré. » Moi, j'ai regardé le couple que ces 2 dames regardaient. « Ah, ma chère, » a dit l'autre, il y a des femmes qui sont bien heureuses. On lui passe tout à celle-ci, parce qu'elle est née ronquerolle et que son mari a le pouvoir. Mais ma chère, a répondu l'autre dame. Lucien lui coûte cher. Qu'est-ce que cela veut dire, papa ?
C'est des bêtises, comme en disent les gens du monde, répondit Peyrade à sa fille d'un air de bonhomie.
Peut-être faisaient-elles allusion à des événements politiques. Enfin, vous m'avez interrogé, je vous réponds. Si vous voulez me marier, trouvez-moi un mari qui ressemble à ce jeune homme-là.
Enfant, répondit le père, la beauté chez les hommes n'est pas toujours le signe de la bonté. Les jeunes gens doués d'un extérieur agréable ne rencontrent aucune difficulté au début de la vie. Ils ne déploient alors aucun talent. Ils sont corrompus par les avances que leur fait le monde, et il faut leur payer plus tard les intérêts de leur qualité.
Je voudrais te trouver ce que les bourgeois, les riches et les imbéciles laissent sans secours ni protection.
Qui, mon père ?
Un homme de talent inconnu.
Mais va, mon enfant chéri, j'ai les moyens de fouiller tous les greniers de Paris et d'accomplir ton programme en présentant à ton amour un homme aussi beau que le mauvais sujet dont tu me parles, mais plein d'avenir, un de ces hommes signalés à la gloire et à la fortune.
Oh, je n'y songeais point. Je dois avoir un troupeau de neveux, et dans le nombre, il peut s'en trouver indigne de toi. Je vais écrire, ou faire écrire en Provence.
Chose étrange, en ce moment, un jeune homme, mourant de faim et de fatigue, venu à pied du département de Vaucluse, un neveu du père Canquoël, entré par la barrière d'Italie à la recherche de son oncle. Dans les rêves de la famille, à qui le destin de cet oncle était inconnu, Peyrade offrait un texte d'espérance. On le croyait revenu des Indes avec des millions. Stimulé par ses romans du coin du feu, ce petit neveu, nommé Théodose, avait entrepris un voyage de circumnavigation à la recherche de l'oncle fantastique. Après avoir savouré les bonheurs de sa paternité pendant quelques heures, Peyrade, les cheveux lavés et teints, sa poudre était un déguisement, vêtu d'une bonne grosse redingote de drap bleu, boutonnée jusqu'au menton, couvert d'un manteau noir, chaussé de grosses bottes à fortes semelles, et muni d'une carte particulière, marchait à pas lents le long de l'avenue Gabriel, où Contenson, déguisé en vieille marchande des quatre saisons, le rencontra devant les jardins de l'Élysée Bourbon.
« Monsieur Saint-Germain, lui dit Contenson, en donnant à son ancien chef son nom de guerre, vous m'avez fait gagner 500 faces.
Mais si je suis venu me poster là, c'est pour vous dire que le damné baron, avant de me les donner, est allé prendre des renseignements à la maison.
J'aurai besoin de toi, sans doute, répondit Peyrade.
Vois nos numéros 7, 10 et 21. Nous pourrons employer ces hommes-là sans qu'on s'en aperçoive, ni à la police, ni à la préfecture.
Contenson alla se replacer auprès de la voiture où M. de Nucingen attendait Peyrade.
« Je suis M. de Saint-Germain, dit le méridional au baron, en s'élevant jusqu'à la portière.
« Eh bien, montez avec moi, répondit le baron, qui donna l'ordre de marcher vers l'arc de triomphe de l'étoile.
« Vous êtes allé à la préfecture, monsieur le baron.
Ce n'est pas bien.
Peut-on savoir ce que vous avez dit à monsieur le préfet et ce qu'il vous a répondu ? Demanda Peyrade.
Afin de donner 500 francs à un troll comme Gondanson, j'étais bien aise de savoir s'il les a fait gagner.
J'ai simplement dit au brevet de police que je souhaitais employer un agent du nom de Peyrade à l'étranger dans une mission délicate, et si je pouvais savoir en lui une confiance illimitée.
Le brevet m'a répondu que vous étiez un des plus habiles hommes et des plus honnêtes.
C'est toute l'affaire.
Monsieur le baron veut-il me dire de quoi il s'agit, maintenant qu'on lui a révélé mon vrai nom ?
Quand le baron lui eut expliqué longuement et verbeusement, dans son affreux patois de juif polonais, et sa rencontre avec Esther, et le cri du chasseur qui se trouvait derrière la voiture, et ses vains efforts, il conclut en racontant ce qui s'était passé la veille chez lui. Le sourire échappé à Lucien de Rubempré, la croyance de Bianchon et de quelques dandies relativement à une accointance entre l'inconnu et ce jeune homme.
Écoutez, monsieur le baron, vous me remettrez d'abord 10 000 francs en acompte sur les frais.
car pour vous, dans cette affaire, il s'agit de vivre. Et comme votre vie est une manufacture d'affaires, il ne faut rien négliger pour vous trouver cette femme. Ah, vous êtes pincé.
Oui, je suis pincé.
S'il faut davantage, je vous le dirai, baron.
Fiez-vous à moi, reprit Peyrade.
Je ne suis pas, comme vous pouvez le croire, un espion.
J'étais en 1807 commissaire général de police à Anvers.
Et maintenant que Louis XVIII est mort, je puis vous confier que pendant 7 ans, j'ai dirigé sa contre-police. On ne marchande donc pas avec moi.
Vous comprenez bien, monsieur le baron, qu'on ne peut pas faire le devis des consciences à acheter avant d'avoir étudié une affaire.
Soyez sans inquiétude, je réussirai.
Ne croyez pas que vous me satisferez avec une somme quelconque.
Je veux autre chose pour récompense.
Pourvu que ce ne soit pas un royaume, dit le baron,
c'est moins que rien pour vous.
Ça me fait.
Vous connaissez les Keller ?
Beaucoup.
François Keller est le gendre du comte de Gondreville. Et le comte de Gondreville a dîné hier chez vous avec son gendre.
Qui diable peut vous dire ?
S'écria le baron.
Ça sera Georges, qui passarde toujours.
Peyrade se mit à rire. Le banquier conçut alors d'étranges soupçons sur son domestique, en remarquant ce sourire.
Le comte de Gondreville est tout à fait en position de m'obtenir une place que je désire avoir à la préfecture de police, et sur la création de laquelle le préfet aura, sous 48 heures, un mémoire,
dit Peyrade en continuant.
Demandez la place pour moi.
Faites que le comte de Gondreville veuille se mêler de cette affaire, en y mettant de la chaleur, et vous reconnaîtrez ainsi le service que je vais vous rendre.
Je ne veux de vous que votre parole, car si vous y manquiez, vous maudiriez tôt ou tard le jour où vous êtes né.
Foi de Peyrade.
Je vous donne ma parole d'honneur de faire le possible.
Si je ne faisais que le possible pour vous, ce ne serait pas assez.
Eh bien, j'agirai franchement.
Franchement,
voilà tout ce que je veux, dit Peyrade. Et la franchise est le seul présent un peu neuf que nous puissions nous faire l'un et l'autre.
Franchement, répéta le baron,
où voulez-vous que je vous remette ?
Au bout du pont Louis XVI.
Au pont de la chambre, dit le baron à son valet de pied qui vint à la portière.
Je fais donc avoir l'inconnu,
se dit le baron en s'en allant.
Quelle bizarrerie, se disait Peyrade en retournant à pied au palais royal, où il se proposait d'essayer de tripler les 10 000 francs pour faire une dot à Lydie.
Me voilà obligé d'examiner les petites affaires du jeune homme dont un regard a ensorcelé ma fille.
C'est sans doute un de ces hommes qui ont l'œil à femme, se dit-il, en employant une des expressions du langage particulier qu'il avait fait à son usage, et dans lesquelles ses observations, celles de Corentin, se résumaient par des mots où la langue était souvent violée, mais par cela même, énergique et pittoresque.
En rentrant chez lui, le baron de Nucingen ne se ressemblait pas à lui-même. Il étonna ses gens et sa femme. Il leur montrait une face colorée, animée, il était gai.
« Gare à nos actionnaires !» dit Du Tillet à Rastignac.
On prenait en ce moment le thé dans le petit salon de Delphine de Nucingen, au retour de l'opéra.
« Oui !» reprit en souriant le baron, qui saisit la plaisanterie de son compère.
« J'éprouve l'envi de faire des affaires !»«
Vous avez donc vu votre inconnu ?» demanda madame de Nucingen.
« Non, répondit-il,
je n'ai que l'espoir de la trouver. »
« Aime-t-on jamais sa femme ainsi ? » s'écria madame de Nucingen, ressentant un peu de jalousie ou feignant d'en avoir.
« Quand vous l'aurez à vous, dit Du Tillet au baron, vous nous ferez souper avec elle, car je suis bien curieux d'examiner la créature qui a pu vous rendre aussi jeune que vous l'êtes.
C'est un chef-d'œuvre de la création,
répondit le vieux banquier.
« Il va se faire attraper comme un mineur, » dit Rastignac à l'oreille de Delphine.
« Bah, il gagne bien assez d'argent pour... »«
Pour en rendre un peu, n'est-ce pas ?» dit Du Tillet en interrompant la baronne.
Nucingen se promenait dans le salon comme si ses jambes le gênaient.
Voilà le moment
de lui faire payer vos nouvelles dettes, dit Rastignac à l'oreille de la baronne. En ce moment même, Carlos, venu rue Thébout, pour faire ses dernières recommandations à Europe, qui devait jouer le principal rôle dans la comédie inventée pour tromper le baron de Nucingen, s'en allait plein d'espérance. Il fut accompagné jusqu'au boulevard par Lucien, assez inquiet de voir ce demi-démon si parfaitement déguisé que lui-même ne l'avait reconnu qu'à sa voix. « Où diable as-tu trouvé une femme plus belle qu'Esther ? » demanda-t-il à son corrupteur. « Mon petit, ça ne se trouve pas à Paris. C'est un lard, ne se fabrique pas en France. C'est-à-dire que tu m'en vois encore étourdi. La Vénus Callipyge n'est pas si bien faite. On se damnerait pour elle. Mais où l'as-tu prise ? C'est la plus belle fille de Londres, ivre de gin. Elle a tué son amant dans un accès de jalousie. L'amant est un misérable, de qui la police de Londres est débarrassée. Et l'on a pour quelque temps envoyé cette créature à Paris, afin de laisser oublier l'affaire. La drôlesse a été très bien élevée. C'est la fille d'un ministre. Elle parle le français comme si c'était sa langue maternelle. Elle ne sait et ne pourra jamais savoir ce qu'elle fait là. On lui a dit que, si elle te plaisait, elle pourrait te manger des millions, mais que tu étais jaloux comme un tigre, et on lui a donné le programme de l'existence d'Esther. Elle ne connaît pas ton nom, mais si Nucingen l'a préférée à Esther... Ah, t'y voilà venue ! S'écria Carlos. Tu as peur aujourd'hui de ne pas voir s'accomplir ce qui t'effrayait tant hier. Sois tranquille. Cette fille blonde et blanche a les yeux bleus. C'est le contraire de la belle juive. Et il n'y a que les yeux d'Esther qui puissent remuer un homme aussi pourri que Nucingen. Tu ne pouvais pas cacher un laidron, que diable. Quand cette poupée aura joué son rôle, je l'enverrai sous la conduite d'une personne sûre, à Rome ou à Madrid, où elle fera des passions. « Puisque nous ne l'avons que pour peu de temps, » dit Lucien, « j'y retourne. »« Va, mon fils, amuse-toi. Demain, tu auras un jour de plus. Moi, j'attends quelqu'un que j'ai chargé de savoir ce qui se passe chez le baron de Nucingen. Qui ? La maîtresse de son valet de chambre. Car enfin, faut-il savoir à tout moment ce qui se passe chez l'ennemi. » À minuit, Paccard, le chasseur d'Esther, trouva Carlos sur le pont des Arts, l'endroit le plus favorable à Paris pour se dire deux mots qui ne doivent pas être entendus. Tout en causant, le chasseur regardait d'un côté, pendant que son maître regardait de l'autre. Le baron est allé ce matin à la préfecture de police, de 4 heures à 5 heures, dit le chasseur, et il s'est vanté ce soir de trouver la femme qu'il a vue au bois de Vincennes. On la lui a promise. Nous serons observés, dit Carlos. Mais par qui ? On s'est déjà servi de Louchard, le garde du commerce. Ce serait un enfantillage, répondit Carlos. Nous n'avons que la brigade de sûreté, la police judiciaire à craindre. Et du moment où elle ne marche pas, nous pouvons marcher, nous. Il y a autre chose. Quoi ? Les amis du pré. J'ai vu hier la pouraille. Il a refroidi un ménage. Et il a 10 000 thunes de 5 balles, en or. On l'arrêtera, dit Jacques Collin. C'est l'assassinat de la rue Boucher. Quel est l'ordre ? Dit Paccard, de l'air respectueux que devait avoir un maréchal en venant prendre le mot d'ordre de Louis XVIII. Vous sortirez tous les soirs à 10 heures, répondit Carlos. Vous irez bon train au bois de Vincennes, dans les bois de Meudon et de Ville d'Avray. Si quelqu'un vous observe ou vous suit, laisse-toi faire. Sois liant, causant, corruptible. Tu parleras de la jalousie de Rubempré, qui est fou de madame. Et surtout, ne veux pas qu'on sache dans le monde qu'il a une maîtresse de ce genre-là. Suffit. Faut-il s'armer ? Jamais, dit vivement Carlos. Une arme ? À quoi cela sert-il ? À faire des malheurs. Ne te sers dans aucun cas de ton couteau de chasseur. Quand on peut casser les jambes, à l'homme le plus fort, par le coup que je t'ai montré. Quand on peut se battre avec 3 argousins armés, avec la certitude d'en mettre 2 à terre, avant qu'ils n'aient tiré leur briquet, que craint-on ? N'as-tu pas ta canne ? C'est juste, dit le chasseur. Paccard, qualifié de vieille garde, de fameux lapin, de bon là, homme à jarret de fer, à bras d'acier, à favoris italiens, à chevelure d'artiste, à barbe de sapeur, à figure blême et impassible comme celle de Contenson, gardait sa fougue en dedans et jouissait d'une tournure de tambour-major qui déroutait le soupçon. Un échappé de Poissy ou de Melun n'a pas cette fatuité sérieuse et cette croyance en son mérite. Jaffar de l'Haroun al-Rachid du bagne, il lui témoignait l'amicale admiration que Peyrade avait pour Corentin. Ce colosse, excessivement fendu, sans beaucoup de poitrine et sans trop de chair sur les os, allait sur ses deux longues quilles d'un pas grave. Jamais la droite ne se mouvait sans que l'œil droit examinât les circonstances extérieures, avec cette rapidité placide particulière au voleur et à l'espion. L'œil gauche imitait l'œil droit. Un pas, un coup d'œil. Sec, agile, prêt à tout et à toute heure, sans une ennemie intime appelée la liqueur des braves, Paccard eût été complet, disait Jacques, tant il possédait à fond les talents indispensables à l'homme en guerre avec la société. Mais le maître avait réussi à convaincre l'esclave de faire la part au feu en ne buvant que le soir. En rentrant, Paccard absorbait l'or liquide que lui versait à petits coups une fille de grès et à grosses panses venues de Dantzig. « On ouvrira l'œil, » dit Paccard, en remettant son magnifique chapeau à plumes, après avoir salué celui qu'il nommait son confesseur. Voilà par quels événements, des hommes aussi forts que l'été, chacun dans leur sphère, Jacques Collin, Peyrade et Corentin, arrivèrent à se trouver aux prises sur le même terrain et à déployer leur génie dans une lutte où chacun combattit pour sa passion ou pour ses intérêts. Ce fut un de ces combats ignorés, mais terribles, où ils se dépensent en talent, en haine, en irritation, en marche et contre-marche, en ruse, autant de puissance qu'il en faut pour établir une fortune. Hommes et moyens, tout fut secret du côté de Peyrade, que son ami Corentin seconda dans cette expédition, une niaiserie pour eux. Ainsi l'histoire est muette à ce sujet, comme elle est muette sur les véritables causes de bien des révolutions. Mais voici le résultat.